7h19, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Marc.
Aujourd'hui, l'Union européenne avec cette question. Qu'attendre de la commission Barroso 2 approuvée par le Parlement aujourd'hui? Votre invité, Christian Lequen.
Voilà, l'investiture prévue cet après-midi ou ce matin, je ne sais plus d'ailleurs. Christian Lequen, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur du CERI, Fondation nationale des sciences politiques. Pourquoi d'ailleurs le président de la commission a-t-il voulu se succéder à lui-même? Pourquoi a-t-il été finalement retenu? D'autre part, quel peut être le rôle de cette nouvelle commission, compte tenu des nouvelles institutions issues du traité de Lisbonne entré en vigueur en décembre dernier? Il faudra rappeler au passage que le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est l'un des vice-présidents, qu'il a une double casquette, même d'une certaine façon une triple casquette. Et puis on accuse déjà ces nouveaux dirigeants de manque de visibilité, de manque de réactivité, de manque d'efficacité, notamment pour la gestion de la crise économique et puis pour la tragédie de Haïti. Alors, d'abord, pourquoi Barroso se succède-t-il à lui-même? On aurait pu trouver quelqu'un, on va dire ça gentiment, de plus flamboyant.
Oui, je pense que d'abord, si Barroso se succède à lui-même, c'est parce que la plupart des gouvernements aujourd'hui, une majorité, sont plutôt de sensibilité de centre-droit. C'est le cas également du Parlement européen. Et donc, il fallait une personnalité qui corresponde à cette sensibilité politique, ce qui est le cas de M. Barroso, puisqu'il est un libéral portugais. Ensuite, pourquoi lui? Parce qu'il l'a souhaité et surtout parce qu'il a compris que, bien qu'il n'ait pas toujours très très bien géré les choses, et en particulier on lui a fait des reproches sur la question de manque de gestion de la crise économique ou du manque d'ambition, en tout cas dans les propos qu'il a tenus, eh bien il n'y avait pas tellement d'autres personnalités qui se dégageaient. Donc il a profité d'une situation où il y avait une opportunité à saisir. C'est la raison pour laquelle il a été retenu, et s'il termine son mandat, ce qui est quand même très très possible et souhaitable pour lui, il aura accompli 10 ans comme Jacques Delors l'avait fait dans les années 80-90.
Alors la question de la composition qui a été lente, parfois laborieuse de la commission, qu'en pensez?
Je pense que c'est une procédure qui est démocratique, puisqu'il y a ces auditions par le Parlement européen. Ce sont des auditions qui sont beaucoup plus exigeantes d'ailleurs que ce que l'on rencontre dans la plupart des parlements nationaux. Je crois que les députés européens ont bien travaillé, au point d'ailleurs de ne pas retenir l'une des candidates qui était la première candidate bulgare, Madame Yeleva, qui a dû donc se retirer. Ensuite, ce sont les équilibres classiques politiques en particulier, mais qui correspondent beaucoup aussi à la sensibilité des gouvernements. Le résultat, c'est que là aussi, on a une commission peut-être plus partisane que la précédente, puisque les conservateurs et les libéraux dominent. Ils sont, si l'on fait des calculs par affiliation politique, 18 sur 27.
Alors les accusations donc qu'on a adressées à, non pas à cette commission puisqu'elle va voir le jour dans un instant, mais au fonctionnement, au proto-fonctionnement de ces nouvelles institutions, c'est-à-dire les dirigeants peu visibles, Madame Ashton qui est à Londres alors que Haïti souffre 1000 martyrs, etc.
Alors l'absence de visibilité, c'est vrai que c'est un vrai problème. Il n'y a pas de grande personnalité aujourd'hui qui se dégage dans cette commission européenne. Beaucoup des candidats qui ont été retenus ce ne sont pas très connus à l'échelle de l'Europe. Mais bon, ça c'est un problème, assez général, c'est qu'il y a assez peu d'hommes politiques qui ont une surface vraiment européenne. La plupart des hommes politiques ont une surface qui est
nationale.
Une visibilité nationale, voilà, exactement. Donc le Tchèque est connu en République Tchèque, le Britannique en Grande-Bretagne, etc., etc., mais pas au-delà.
Et Mme Ashton n'était connue que de peu de monde, sinon à la Commission.
Madame Ashton était connue de peu de monde. Elle aussi, elle a bénéficié en quelque sorte d'une opportunité politique. C'est qu'il fallait un social-démocrate pour équilibrer le fait que le président permanent était de sensibilité, disons, de centre-droit. Et David Miliband, le ministre des Affaires étrangères britannique, ne souhaitait pas occuper le poste, donc puisqu'il préfère se réserver pour essayer de reconquérir un jour le pouvoir des travaillistes si les conservateurs gagnent les élections en Grande-Bretagne. Donc elle a bénéficié d'une chance politique. Ça arrive quelquefois dans la carrière des gens.
Alors, donc, le contexte est quand même très hostile, et là, personne n'y est pour rien, ou en tout cas, les torts peuvent être partagés. Contexte économique, alors, la Grèce, la zone euro, etc. Le rôle du FMI, même en Europe, dans certains pays européens.
Oui, alors ça, je crois que ça va être effectivement le point le plus important, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même que la Commission réfléchisse à un programme économique qui permette à la fois de limiter les déficits budgétaires, c'est-à-dire de revenir à un peu de stabilité. Vous l'avez dit à propos de la Grèce, mais on pourrait le rajouter aussi le Portugal ou l'Espagne. Réfléchir à cette question aussi de la croissance. Donc il y a un nouveau programme économique à la lumière de la crise qui s'est produite en 2008 qu'il faut élaborer. Et il y a d'autres points qui sont importants. C'est au cours de cette commission Barroso II qu'il faudra réformer le budget. Réformer le budget, ça veut dire aussi réformer la politique agricole commune, un sujet important pour la France. Il faut réfléchir aux conséquences de l'échec de Copenhague, de la conférence sur le changement climatique. Et puis, l'élargissement continue. Et c'est vraisemblablement sous la commission Barroso aussi qu'un nouvel État membre entrera la Croatie en 2011.
Alors, justement, la commission aussi, qu'en dire en matière de politique de la concurrence, qui est un domaine évidemment chatouilleux pour la France, notamment à propos des aides d'État, on l'a vu à l'égard de Renault, par exemple, ou même du nucléaire, j'ai vu, civil, etc. Et puis, alors, il y a aussi la commission qui dit, par exemple, que le président de la commission dit qu'il veut vite se débarrasser, entre guillemets, de la question des OGM et imposer, l'autorisation de culture.
Oui, alors, bon, ça, ce sont effectivement
des points... Ça n'est pas très fédérateur, l'âge des OGM.
Non, ce sont des points extrêmement controversés, mais la Commission ne pourra, dans ce domaine, faire que ce que le traité lui permet de faire, c'est-à-dire des propositions. Et c'est ensuite au ministre, au sein du Conseil, de décider. Je crois que c'est un point qu'il ne faut jamais oublier, à l'exception de la politique de concurrence et peut-être de la politique commerciale, où la Commission a véritablement des pouvoirs d'intervention directe, et encore pour la politique commerciale, c'est pas si évident que ça, parce qu'elle est surveillée par les États. Pour tout le reste, elle ne fait que des propositions, ce n'est pas la Commission qui décide. Ce sont les États membres qui continuent de décider en co-décision, souvent avec le Parlement européen, et de plus en plus.
Écoutez, un grand merci pour cet éclairage. On reviendra sur les questions européennes après-demain, à propos du sommet donc consacré au dossier économique. Donc rendez-vous jeudi. Merci Christian Lequen, je rappelle que vous êtes directeur du CEI, spécialiste évidemment des institutions européennes et Fondation nationale des sciences politiques.